Bon. Parce que là, on est en train de faire choquer Gilbert encore.
Ça a marché.
Essaye de pas briser le micro.
Ouais, parce qu'on parlait du Canadien ce soir, puis Olivier, qui, je vous le rappelle, a prédit que le Canadien terminerait 7e dans l'Atlantique. Que le Canadien allait subir la défaite ce soir. Et Gilbert, ça n'a pas passé au conseil.
Non. Je ne suis pas d'accord du tout avec la Han.
Mais selon Gilbert, le Canadien va gagner 82 matchs cette année.
Non. Mais la game d'ouverture, Oli, c'est différent. Tu performes bien.
C'est important de commencer ça en
force.
De bonne
façon, exactement. Puis le Canadien, il faut qu'il connaisse une bonne saison. On n'a pas le choix de commencer avec une grosse game. C'est la même chose pour les Leafs de Toronto, par exemple.
C'est la même chose pour les jeunes joueurs aussi qui en seront à leur baptême de feu dans la Ligue nationale de hockey. On va en parler avec Martin Thériault. Salut, Marty.
Hey, Marty. Comment ça va?
Salut, les gars. Ça va. Ça peut pas bien. Ça va moins bien que vous, mais ça va très bien.
C'est bon, ça. Hey, Marty, tout le monde le savait. C'était quand même assez écrit dans le ciel, mais à moins d'une catastrophe, Matthew Schaefer va faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey jeudi contre les Pingouins. À quoi tu t'attends pour le plus récent premier choix au total?
Ouais, ça va être assez intéressant pour lui. Il va commencer sur la troisième paire des Islanders de New York. Au départ, je me disais, bon, ça va peut-être être un peu plus lent et tout ça pour lui, le prendre le rythme et tout ça. Mais après, ce que j'ai vu dans les matchs préparatoires, j'ai trouvé que ça... C'était vraiment quelqu'un qui a un coup de patin fluide. Je me disais, bon, est-ce que physiquement, il va être capable de prendre les coups et tout ça? Puis finalement, il n'y a pas de problème parce qu'il patine tellement vite, il est tellement capable avec deux ou trois premières enjambées d'aller se créer de la séparation. Et tu sais, oui, il y a quand même quelques vétérans chez les Islanders, des gars comme Adam Pelleck, des gars comme Ryan Pollock. Et c'est pourquoi je pense qu'un gars comme Schaefer, on va le protéger d'abord. Mais n'oubliez pas cet aspect-là, l'entraîneur-chef, c'est Patrick Roy. Patrick Roy n'a jamais eu peur d'envoyer des jeunes dans la mêlée, de les tester, de leur faire confiance, surtout s'ils les aiment. Et on l'a vu tout au long du camp d'entraînement, Matthew Schaefer a été testé avec Scott Mayfield, un vétéran. Mm-hmm. On l'a placé dans beaucoup de situations un peu plus corsées. Et il a, en tout cas, selon moi, a bien mieux répondu que ça à ce que je m'attendais. Moi, je pensais vraiment que le côté physique serait difficile. Puis finalement, avec son coup de patin, ben il s'en sort quand même assez bien. Donc, je pense qu'on va le protéger. Je suis pas en train de dire que c'est un candidat pour le trophée Calder, mais ça va être assez intéressant à surveiller dès jeudi contre les Pingouins.
Puis d'avoir de l'Atlas aussi, Marty, sur le jeu de puissance. Ça, c'est pas nécessairement sur une première vague, mais au moins un minimum une deuxième vague. Là,
c'est sûr et certain.
Là.
Ouais, puis tu sais, je sais que Patrick Roy aime beaucoup Tony DeAngelo. Moi, personnellement, pas du tout.
Ouais, c'est high risk, mettons, là.
Ben c'est ça, mais c'est pour dire que y a pas énormément de candidats chez les Islanders qui sont capables d'aller évoluer en avantage numérique. Tu sais, Pelleck et Pollock, on parle de gars peut-être un peu plus défensifs, alors que Schaefer, on le sait, là, c'est quelqu'un qui bouge énormément bien la rondelle, c'est quelqu'un qui est capable d'aller trouver les lignes de passe, qui est capable de se trouver des lignes de C, et qui a surtout un don de s'illustrer quand ça compte. Moi, l'an dernier, ça m'avait frappé là à quel point parfois, fin de troisième période ou prolongation, il est capable de rehausser son jeu d'un cran. Donc, et je pense que ça fait plaisir à Patrick Roy. Donc, ouais, ça, c'est assez clair que je vois Schaefer en avantage numérique avoir peut-être pas le meilleur rôle, comme tu dis, Gilbert, là, mais un rôle assez important aussi,
ouais,
quand même.
C'était quand même assez prévisible. Ça quand même arrive assez souvent que le premier choix au total perce la formation à 18 ans puis saute directement dans la Ligue nationale de hockey. Pas mal plus surprenant, par contre, de voir Brady Martin faire la même chose avec les Prédateurs de Nashville.
Ouais, pas mal. Puis je t'avoue que je me pose un peu la question des autres. Comprends-moi bien, j'adore Brady Martin. Tu le sais, là, au podcast La Relève, je l'avais dans mon top 5. Là. C'est quelqu'un que j'adore par son intensité. C'est quelqu'un qui, déjà à 18 ans, applique des mises en échec pratiquement de niveau LNH. Et c'est quelqu'un qui s'est amélioré énormément par son histoire. T'sais, c'est quelqu'un qui vient d'une ferme. C'est quelqu'un qui était habitué de travailler très, très fort quand il était jeune. Donc, tu sais, ça, souvent, ce sont des joueurs qui vont avoir une courbe de progression. Mais de là, tu sais, que je le place sur le premier
ben
trio
oui.
avec Ryan O'Reilly et Philip Forsberg. Là, c'est parce que je me dis un peu, bon, OK, du côté des Preds, oui, tu veux donner des chances aux jeunes. Oui, c'est une équipe qui a peut-être un peu moins de talent. Il y a quand même eu, premièrement, des blessés. Il y a eu quelques départs cet été et tout ça. Mais de là à dire que tu vas placer Brady Martin dans un poste de premier trio, moi, je pense que ça va pas durer très longtemps, cette expérience-là. Je pense que c'est un peu pour lui donner un espèce de bonbon, puis au niveau intensité, tu sais, le jeune est tellement a tellement une attitude irréprochable que je pense que c'est un peu comme on veut le récompenser.
Ah, c'est un bon vétéran. Ah. Ryan O'Reilly, c'est un bon vétéran. Philip Forsberg et tout ça, puis on s'entend que les Prédateurs l'année passée, c'était tout croche, là.
Exact.
Fait que, tu sais...
Mais Martin, tu vas voir, Gilbert, tu vas l'adorer, là. L'éthique de travail, là, c'est là, là. Ça, c'est lui,
un gros
100%.
Moteur. Exact. Un gros moteur, Brady Martin. Eux, là, ils ont des choses à se faire pardonner, les Prédateurs, là. Ils peuvent pas se permettre d'avoir un mauvais départ comme l'année passée, là. Mm-hmm. Ils se sont sortis de la course sur série, il n'y avait pas un mois et demi joué.
Le premier mois, ouais,
exactement. Alors, ça va prendre un meilleur départ que ça, il n'y a pas de doute. C'est le fun, pareil, parce que l'année passée, on entendait à outrance, c'est quand même une cuvée assez faible pour le repêchage. Mais malgré tout, Schaefer, Martin, à ça, on peut rajouter Ben Kendall, qu'on a parlé tantôt avec les Pingouins, Braden Coutts, Michael Misa. Il y a quand même plusieurs joueurs, Marty, qui vont faire leur début dès cette année. C'est-tu si surprenant pour toi?
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Là. Première fois depuis 2016 que tu as autant de joueurs d'une même QV qui commencent dans la LNH la saison suivante. Donc, c'est quand même pas rien. Là. C'est sûr que ça surprend. En même temps, je pense qu'il faut que tu décortiques un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ces équipes-là plus précisément. Regarde un gars comme Ben Kendall qui a joué hier avec les Penguins de Pittsburgh. C'est quand même bien débrouillé. Ben, on est une équipe qui est en train d'amorcer un cycle de reconstruction. On veut aller chercher des jeunes joueurs. On veut les greffer un petit peu. Puis, je pense que des cas très précis. Un gars comme Ben Kendall, c'est peut-être un peu un gars qui a moins de force physique, mais tu vois que le talent est là. Tu vois que l'intelligence est là. Lorsqu'il arrive dans les coins, capable de placer la rondelle au bon moment. Il est pas gros, il a de la difficulté physiquement, mais il est intelligent. Écoute, au Centre Bell, c'est ce qu'il m'avait frappé. Je trouve quand même que c'est une mauvaise idée. Là. Je me dis qu'il y a des problèmes peut-être un petit peu au niveau physique, ce qui va peut-être le rattraper un peu à long terme. Mais je pense que c'est un peu des situations un peu isolées une après l'autre. T'sais, Schaefer, lui, a un rôle au niveau défensif avec les Islanders. Un gars comme Braden Coutts aurait un excellent camp. 4 matchs en autant de rencontres avec les Canucks. On le place sur le troisième trio. Donc, ouais, j'étais extrêmement surpris, mais en même temps, je pense que c'est vraiment particulier à chacune des équipes. C'est pas de dire nécessairement que le repêchage 2025 était vraiment meilleur, finalement.
Ouais, puis tu sais, pour appuyer ton point pour Kendall avec les Penguins, c'est la même chose pour Harrison Brunick, mais lui, c'est pas la dernière QV. Fait que c'est la raison pour laquelle qu'on n'en fait pas mention. D'ailleurs, si on revient dans les années précédentes, on peut regarder du côté des Flames de Calgary avec Patvey Gridin, que les partisans des Cataractes de Shawinigan connaissent parce qu'il évoluait l'année dernière dans la LHJMQ. Il s'était eu une place à Calgary, Marty.
Ouais, finalement, la LHJMQ, pas de mauvaise ligue hein, pour développer des joueurs.
Pas pris par tout.
On a un gars qui est capable d'obtenir des points lors d'une saison puis lors de la campagne suivante, ça mène dans la LNH. Mais blague à part avec Matvey Gridin, ce que je trouve intéressant, c'est que le talent offensif n'a jamais fait de doute dans son cas. C'est un joueur qui a un excellent tir. C'est quelqu'un qui a un sens offensif là, incroyable, capable de faire de bonnes passes à l'occasion. Le gabarit est là du côté de Matvey Gridin aussi. Mais le problème, ça a toujours été son intensité. Moi, personnellement, et tu le sais, Désolé, j'ai jamais été un grand partisan parce que, justement, l'effort était vraiment inconstant. C'était quelqu'un qui, tu sais, souvent prenait des mauvaises décisions, pas nécessairement un bon positionnement défensif. Ça, c'était un peu plus compliqué, mais pour l'avoir observé dans les matchs préparatoires, c'est un élément où il s'est vraiment amélioré. Avec son bâton, il est pas mal plus efficace, capable d'aller récupérer des rondelles, de provoquer des revirements. Et ça a rapporté parce que son jeu offensif, lui, est demeuré pas mal le même. Il a continué de s'améliorer. Il a continué de se trouver des ouvertures, des occasions. Je crois qu'il a marqué lors d'une échappée le match que j'ai regardé de lui. Là. Donc, chapeau à Gridin. On dit quand on analyse des joueurs et on prend des forces et des faiblesses, ben à un moment donné, ça appartient aux joueurs aussi d'améliorer les côtés, les faiblesses. Et on verra bien, là, tu vois, Matvey Gridin va commencer, à moins d'une surprise, sur le deuxième trio. Il a les atouts offensifs vraiment pour se démarquer, donc chapeau à lui s'il a fini par comprendre que ben il doit donner un effort un peu plus constant match après match.
Le temps file, Marty, mais il y a des amateurs de LHJMQ qui se demandent, y a-t-il des chances de revenir dans la Ligue cette année ou tu penses qu'il va jouer toute la saison dans la Ligue nationale?
Il y a des chances, là, mais c'est très, très, très mince, tu sais. Il faut comprendre que lui a été repêché alors qu'il venait de disputer une saison dans la USHL. Donc, tu peux l'envoyer dans la Ligue américaine. Moi, ce que je pense qui va arriver, c'est que Gridin, si ça ne fonctionne pas, va retourner dans la Ligue américaine et c'est là qu'il va passer davantage la saison. On dirait que dans ma tête, je l'ai jamais vu à Shawinigan cette année-là.
Marty, merci beaucoup pour ta chronique et bonne chance dans ton quiz tout à l'heure dans Lara Gonzo parce que Oli se prépare depuis tantôt, le fait de l'étude. Le
c'est fini, hein, Marty. Ton règne est terminé. Là, je reprends ma ceinture.
Oh, OK, les challenges sont lancés. Là.
Un thème, j'ai même pas vu le thème, mais là, un thème, semble-t-il, qui va venir une compétition, on va le dire comme ça.
Ah oui, j'espère que t'as peur en ce moment-là.
Gaucher-droitier?
Non, on
s'amuse, on s'amuse.
On s'amuse,
c'est
ben
ça
oui.
Le principal.
Elle n'a pas manqué un peu plus tard dans la raconte.
On s'amuse, mais il y a de la misère à dormir à chaque fois qu'il perd. Marty, on s'amuse pas le gars, toi là.
Ah, tu m'as donné des cauchemars pendant deux semaines, Marty.
Écoute.
Salut, Marty.
Salut,
Marty.
Bye.
Bye.
Petite nouvelle avant de quitter en pause. C'est une nouvelle qui est très triste. Selon des informations de notre collègue Mathieu Boulay du Journal de Montréal, Journal de Québec, le fils d'Arturo Gatti, Arturo Junior, est décédé d'une cause indéterminée au Mexique hier. Lundi, à 17 ans seulement. Alors, plusieurs sources qui ont confirmé la nouvelle au Journal de Montréal. Arturo Junior souhaitait suivre les traces de son père. On l'avait vu dans un gala récemment, ici au Québec, de boxe amateur. Tranquillement, pas vite, voulait devenir boxeur professionnel. Il est décédé à 17 ans.
Il y avait un peu le même style du bonhomme aussi.
Oui, exact.
17 ans, c'est pas vieux.
La nouvelle qui vient de sortir, là, donc à suivre pour les causes du décès.
Merci, Bernard. Merci, Tony, pour la nouvelle dernière minute. On va aller à la pause. De l'autre côté, on a commencé un jeu hier. Gilbert et Tony, on est devant. On essaie de prédire les gagnants de la soirée. On regarde le menu, dont un match Canadien Maple Leafs.
Yes, sir.